Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence qui sent un peu la fin, à défaut du sapin. D'accord, ok. Donc Francis nous quittera 10 minutes avant la fin. Et alors, on a déjà dû remplacer Camille Le Boulanger, qui lui est parti encore plus avant. J'espère que vous avez eu l'occasion de le croiser sur une autre conférence, parce qu'il ne sera pas à celle-là. C'est dommage, parce que j'avais préparé des trucs assez drôles le concernant. Mais c'est pas grave. Je vais quand même m'en resservir avec vous.
Il est remplacé par quelqu'un?
Par personne. Donc on n'est que nous trois, quatre. Enfin, vous trois et moi.
Alors, j'ai parlé avec Camille Le Boulanger longuement lors de ses imaginages. Je peux essayer de tenir son rôle, mais je ne suis pas sûre que ça le fasse.
Non, parce que... Alors, le titre de la conférence, c'est « Entendre le bruit des vagues, sentir les odeurs de sous-bois, voir la neige qui tombe, avec les mots, on fait tout ». Alors, moi, je me suis posé la question en préparant cette conférence. Qui est la vague? Qui est la neige? Et qui sent le sous-bois? Merci d'être un beau public.
Avec les chips et le fromage local, je peux le faire.
Mais pas la neige. Bien. Effectivement, est-ce que vous pensez qu'avec les mots, on fait tout? Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de tout et de n'importe quoi? Et comment vous apprivoisez les mots au mieux pour nous faire entrer dans vos univers? Est-ce que le vocabulaire, c'est quelque chose d'important? Est-ce que le niveau de langage, c'est quelque chose d'important? Voilà, c'est un peu comme ça que je vais orienter ces échanges. Si ça ne vous convient pas, vous me le dites tout de suite et on part sur d'autres pistes, hein, je suis prête. Francis, commençons par vous.
Bon, alors moi, je vais incarner l'opposition dans ce débat parce que je suis un écrivain posthume. J'ai arrêté d'écrire en 2011, pour ceux qui ne le savent pas, et je me suis tourné vers la composition de musique de ballet. Donc ceci est le deuxième ballet que j'ai composé sur ordinateur avec une banque de sons. Et si vous avez dans vos relations un chorégraphe, une compagnie de danse qui peuvent l'accueillir, ce serait sympa. Donc, moi, j'ai dit les choses d'abord avec des mots, puis à un moment, j'en ai eu assez des mots, et je me suis dit, tiens, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire avec des mots. Alors, bon, c'est vrai que j'ai dit la neige, j'ai dit le bruit des vagues, peut-être pas tellement, mais les paysages, oui, des tas de paysages avec les odeurs, avec tout ça, les mots sont d'une très grande richesse. Et c'est vrai aussi que maintenant, je fais la même chose avec des notes. Je décris la neige qui tombe, je décris alors le mouvement des vagues qui montent à l'assaut d'une falaise, et c'est aussi très jouissif de le faire avec des notes, enfin de faire avec des notes ce que j'ai fait avant avec des mots.
Estelle?
Alors, disons-moi, à côté, en fait, c'est la table ronde des auteurs multicartes. Et moi, à côté, je fais un peu de réalisation. J'ai fait du théâtre et c'est vrai que ce que j'aime bien avec justement la littérature, c'est que par rapport aux autres médiums que j'aime beaucoup aussi, c'est beaucoup plus immersif, en fait. C'est-à-dire que les mots, c'est à la fois très simple, c'est juste des lettres sur du papier, mais quand on fait rentrer le lecteur dans la peau d'un personnage, on a vraiment toutes les sensations du personnage. En tout cas, quand on fait bien son travail, quoi. Je veux dire, on a non seulement, évidemment, les décors, mais on a la manière dont une personne les vit. On a les douleurs qu'il ressent, les joies qu'il ressent, le froid, les goûts, les odeurs. C'est tout ça qu'on peut transmettre au travers des mots. C'est des mondes beaucoup plus incarnés, finalement, que des images sur écran. Et pourtant, j'adore les images sur écran, hein, c'est l'autre partie de ma vie. Mais voilà, il y a ce côté complètement immersif que peut avoir la littérature et qui fait que j'adore ça et que maintenant c'est devenu donc à la fois ma drogue favorite, même avant le café. Et donc...
Carrément.
Ah ouais. Et mon moyen d'expression principal. Et pour finir, alors moi clairement, mais voilà, je pense qu'avec les couves que j'ai, ça surprendra pas grand monde, c'est l'océan, enfin je veux dire, le bruit des vagues, le fracas des vagues, les odeurs de sel, d'iode, l'humidité froide qui peu à peu s'infiltre, donc voilà, jusqu'à l'intérieur des maisons. Oui, le dernier tournage que j'ai fait, on était dans une maison sans eau et sans chauffage, dans un printemps qui ressemblait à l'hiver en bord d'océan, et en gros, au bout de 3 jours, ça puait le poisson, parce que ça servait aussi de décor, et qu'il y avait des poissons morts dans le film, voilà. Mais ça, on ne le voit pas, par exemple, sur le film. L'odeur du poisson mort, on ne la sent pas. Et alors que là, l'odeur de poisson mort, je peux la faire sentir, en fait, dans les livres. En tout cas, j'essaye.
Jean-Claude.
C'est difficile. Moi aussi, je suis un auteur multicarte. Je fais des avions aussi. Donc...
C'est ça. C'est bien ce qu'elle disait.
Non, mais c'est vrai que pour ceux... Je sais qu'il y en a ici qui ont assisté aux ateliers d'écriture que Lionel Davoust et moi ont fait aux Imaginales chaque année. C'est vrai qu'une partie non négligeable de notre temps est consacrée à ce qu'on appelle le sensorium, c'est-à-dire l'ensemble des sens présents dans un livre. Parce que tout le monde sait décrire, tout le monde sait montrer ce qu'on voit. C'est plus difficile de parler de ce qu'on entend, mais on y arrive, parce qu'avec les dialogues, déjà, il y a du sonore. Mais ce qui sont les odeurs, ce qui sont le toucher, ce qui sont tout ce qui est parfum, choses de genre, en fait, le reste des sens, ben, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on n'y pense pas. Au moins, une scène qui n'a pas d'odeur, c'est une scène qui est curieusement stérilisée. Vous voyez, j'imagine pas me promener au bord de la mer sans odeur. J'étais au festival Saint-Malo il y a une semaine. Je rentrais à la ville par la plage parce que les gens de l'organisation se sont excusés de me mettre à Saint-Malo dans un hôtel qui était à 5 minutes du centre-ville. Et j'étais obligé tous les matins de marcher le long de la plage, ce qui est une souffrance. Il faut imaginer, je leur ai dit que je leur pardonnerais difficilement, mais qu'à la rigueur, j'accepterais. Et donc j'étais là et je vois passer une dame aveugle qui avançait sur la plage en tripotant sa canne. Et je me suis dit, quel dommage que cette dame n'ait pas ce magnifique spectacle. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait le cri des cormorans, le cri des mouettes, qui avait l'odeur de la mer, qu'en marchant, on piétinait du varech séché et qu'il y avait cette odeur qui montait. Je me suis dit, mais en fait, il lui manque rien. Et je me suis dit, si j'arrive avec un livre à le raconter, comme je vous le raconte, simplement pour que ça vous monte au nez, que ça vous monte aux oreilles, que quelque part, vous ayez ce frisson sur la peau, ben, j'ai réussi à vous passer quelque chose. Parce que moi, je fais des mots, c'est vous qui, après, fabriquez tout le reste. Et ce que vous fabriquez, c'est les sons, les odeurs, cette impression d'être dedans. Et c'est ça qui le rend, j'espère, intéressant pour vous, c'est que c'est vous qui l'avez fabriqué.
Je trouve très intéressant que tu soulèves le problème des odeurs. Parce que personnellement, je n'ai vraiment quasiment pas d'odorat, donc je suis très peu sensible aux odeurs et vraisemblablement, dans mes livres, il ne doit pas y avoir beaucoup d'odeurs. Mais en revanche, je vous renvoie à Proust. Alors je ne sais plus exactement, je crois que c'est dans le Côté de Guermantes, je ne mettrai pas ma main au feu. Il a deux pages entières où il décrit l'armoire de sa grand-mère. Et quand vous arrivez au bas de la deuxième page, vous sentez vraiment l'odeur de l'armoire de sa grand-mère. Et ça, c'est une impression inouïe.
Alors, est-ce que, je me suis demandé, est-ce qu'à ce moment, et ça tombe bien que vous parliez de Proust et de deux pages sur une armoire, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans la volonté d'immersion totale et dans la volonté de description au maximum possible des choses, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre le lecteur? Est-ce que ce n'est pas une possibilité qu'il décroche parce que la description est trop longue, parce qu'il pense qu'il en sait assez là sur l'armoire et qu'il veut avancer dans le roman, je sais pas. Proust, c'est pas forcément le genre de littérature dont on parle ici, mais c'est aussi la littérature qu'on peut lire et dont on peut s'inspirer. Est-ce que chez vous, dans vos romans ou dans votre façon de conter, il y a une attention donnée à cette volonté de ne pas perdre le lecteur?
Moi, je procède par petites touches. Je ne procède pas par très longues descriptions.
L'impressionnisme
Oui, c'est-à-dire je glisse une phrase. En fait, les phrases, ce que j'appelle les phrases météo, ça me sert à installer des silences au milieu des dialogues. Donc, pour marquer qu'il y a un silence, je décris le crépitement de la grêle sur la vitre, etc. Ça me sert à ça. Donc, ça ne crée pas de longueur. Au contraire, ça donne le temps exact du dialogue. Mais Proust, c'est complètement différent. Et de toute façon, bon, Proust perd beaucoup de ses lecteurs en route parce qu'il fait des phrases trop longues, avec trois paires de guillemets. Et... Bon, moi, je ne suis pas d'accord, mais bon.
En fait, excuse-moi, mais est-ce que tu veux, ça dépend de ce que tu veux faire passer à ton lecteur à un moment donné. Si tu veux faire passer une émotion, et je parle d'une émotion brute, qui peut être une émotion sensorielle, mais qui peut être aussi une émotion amoureuse, une émotion une affection, quelque chose, ben, il faut utiliser ça et il faut vraiment rentrer là-dedans. Et... c'est sûr que tu décris pas un combat à l'épée, je dirais, de cette façon-là. Simplement, tu peux décider aussi que si le combat dure, à ce moment-là, tu fais Princess Bride, et à ce moment-là, tu as tout le travail de bruit, tout le travail de cliquetis des épées et des pas qui fonctionnent d'une certaine façon, et tu fais ta chorégraphie en fonction de ça. Et ça devient quelque chose qui ne perd pas le lecteur du tout, qui rentre dans le processus. Tu sais, j'ai quand même écrit une nouvelle où je m'étais imposé comme contrainte de ne pas avoir de description visuelle. Donc, tu écris un texte sans description visuelle. Et il y a une raison. Et à ce moment-là, tu te dis, OK, comment est-ce que je fonctionne ? Comment est-ce que j'arrive à fonctionner avec une souris qui pénètre dans le truc, tu vois ? Et ben, tu ne fonctionnes qu'avec le bruit des pas, tu fonctionnes qu'avec la manière dont la personne trébuche pour essayer de l'atteindre, enfin, tu vois ? Pas du tout de la vision. Tu as du son, tu as du toucher, il n'y a pas de goût dans ce cas particulier, mais il y a vraiment des choses comme ça. Ben oui, c'est pour donner quelque chose qui n'est pas une tension ou une émotion, c'est autre chose. Après tout, bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que... Estelle, toi, tu as quand même des moments sur ton bateau où ils sont environnés d'odeurs, de sons, de choses comme ça. C'est merveilleux. Puis on se dit, ben, on n'a pas l'impression qu'on s'emmerde. Au contraire, le bateau avance.
En fait, après, c'est peut-être un peu drastique comme manière de le dire, mais je ne suis pas sûre de croire vraiment à la différence stricte et absolue entre description et action. Et ça a peut-être un sens dans une œuvre comme celle de Proust. Et donc, quand on fait plusieurs pages sur une armoire normande, mais il y a de très belles armoires normandes, même si je préfère les limousines. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais surtout, ce que j'essaye de faire, et ce que j'aime dans les livres, et ce que je vois quand même dans pas mal de romans de fantasy que j'aime suivre, c'est comment dire ? En fait, pour moi, quand mon personnage rentre dans une ville, par exemple, bah, la ville, elle se déploie au fur et à mesure que le personnage avance, ou j'en sais rien, il s'arrête dans une échoppe pour voir un truc, et la ville continue à se déployer, et en même temps, il y a aussi bah, toutes les pensées du personnage qui avance, genre, par exemple, est-ce que je vais tuer quelqu'un, ou est-ce que quelqu'un va me tuer ? Enfin, un exemple type de fantasy, quoi. Et... voilà, c'est...
Et avec une grande tendresse. Hein, c'est...
Mais oui, oui, aussi. Mais voilà, et c'est... tout est mêlé, tout avance ensemble. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas le côté un pavé de description, un pavé de dialogue, un pavé d'action. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de super récent. Là où j'ai appris ça, c'est grâce à ma prof de français de première, donc spéciale dédicace à Madame Fouimounou, et qui nous a parlé d'un roman que j'avais lu une fois, que j'avais détesté, qui était Madame Bovary, et la manière dont elle nous l'a montré, après, je l'ai aimé. D'abord parce qu'il y avait beaucoup de mauvais esprits dedans, que j'avais complètement loupé à la première lecture. Et bon, bah, j'étais en première, le mauvais esprit, ça me parlait, enfin, ça me parle toujours. Et aussi, surtout, elle a montré cette scène où Madame Bovary passe dans la forêt en automne, alors qu'elle est en train de désespérer sur sa troisième ou deuxième, je ne sais plus, histoire d'amour ratée. Et il y a tout l'état d'esprit de Madame Bovary qui imprègne cette forêt automnale. Et c'est pas juste une forêt, c'est la forêt et le déploiement des pensées de Madame Bovary qui en plus avance vers l'ennui et l'inutilité de sa propre existence qui se déploie. C'est pas juste une description, c'est pas juste une femme qui avance, c'est pas juste non plus une description de pensée, c'est tous ces fils-là qui se tressent ensemble. Et pour recentrer peut-être aussi sur la fantasy, qui je pense est un genre qui parle plus peut-être aux imaginales que Proust ou Madame Bovary, même si c'est très bien. Un des auteurs qui m'a vraiment appris aussi, pour le coup, à donner un monde en fantasy, à donner un monde dans un roman, c'est Mathieu Gabory, dont vous avez les livres sous la bulle du livre, c'est très bien.
Et alors, vous avez aussi Mathieu Gabory sous la bulle du livre. Donc
oui, je ne suis pas sûre qu'il soit pour autant, c'est pour ça que j'hésitais. Et en fait, quand j'étais jeune étudiante, et que je ne pensais pas du tout être auteur de roman un jour, j'ai interviewé Mathieu Gabory pour un mémoire, et il m'a dit une phrase sur sa manière de donner à voir un monde, qu'un monde, alors il l'a dit mieux que moi, et puis là on est en fin d'imaginal, donc la citation ne va pas être super exacte, mais qu'en gros, qu'un monde devait apparaître vraiment par petites étoiles au fond donc, de l'histoire, et ne devait pas être une grosse tapisserie trop éclairée. Il le disait plus élégamment, mais c'était ça. Et quelque part, quand on construit un monde en fantasy, on construit un monde immense pour n'en donner à voir que la toute petite partie où vont passer les personnages, que la toute petite partie qui va intéresser les personnages. Mais le lecteur va sentir que ce monde est réel et que ce monde est vivant parce qu'on aura fait tout ce travail derrière. En fait, on vous montre des points d'iceberg, mais s'il n'y a pas un iceberg derrière, bah, vous voyez bien que c'est juste un truc de carton blanc qu'on a posé sur l'eau.
Ou ça ressemble à des glaçons, quoi.
Ouais, c'est le côté océanique, je continue. Et puis en plus, comme il fait chaud, les glaçons, j'ai pensé que ça séduirait le public. Ça, c'est voilà, mon côté auteur carriériste.
Eh bien, pourtant, je vais rebondir sur l'histoire du sensorium de Jean-Claude. Est-ce que vous appréciez d'utiliser... moi, je suis fascinée par les figures de style qui inversent les sens, qui font que l'on sent les sons, que l'on respire les couleurs, les choses...
Tout ce qui est synesthésie, en fait.
Synesthésie, oui. Ouais. Est-ce que ça, ce n'est pas une façon de troubler le lecteur et de lui permettre de rentrer dans un univers sans ses acquis et sans ses connaissances?
Oui, c'est une technique. C'est en particulier vrai quand on l'introduit dans un espace sensoriel dont il n'est rien censé connaître. Si on le met sur une planète étrangère, dans le nid d'un animal fantastique qu'il n'a jamais rencontré, etc., a priori, vous ne connaissez rien et le but est d'essayer de vous faire sentir quelque chose. Alors à ce moment-là, évidemment, on triche. Parce qu'on est là pour ça. Hein. On triche en utilisant éventuellement des métaphores décalées, en utilisant un décalage. Je sais pas, j'avais dit à un moment donné à propos d'une fille, elle avait un regard de roue dentée, ça peut marcher aussi, tu vois. Travailler sur cet aspect-là, sur le côté prendre une métaphore qui n'est pas adaptée pour essayer de déclencher un effet. On écrit des mots pour déclencher des effets, pour produire des choses à l'intérieur de vous qui commencent à proliférer. Et à partir de là, n'importe quelle technique est la bonne. Celle-là est très intrusive. Elle a cet avantage-là parce qu'elle oblige les gens à dire « Mais de quoi il me parle ?» Et on les rend inquiets, on les rend un peu attentifs. Alors qu'évidemment, si on leur dit, sur le même truc, toujours le même cliché, quoi, le chef, enfin, je sais pas, le conducteur de train, il est père de 7 enfants, bah, ok, d'accord. Tandis qu'arriver à travailler sur la rupture, et en particulier sur la rupture sensorielle, on se dit, ok. Si chez la tante de Proust, à un moment donné, au beau milieu, ça sentait le pain de plastique, on pourrait se dire, tiens, mais c'est qui la tante? Et à ce moment-là, tout de suite, on aurait l'attention qui se dirait, mais voilà, mais c'est quoi? Ou le pétard, on se dirait, tiens, la grand-mère quand même, hein, ok, alors on reviendrait un petit peu en arrière, on reprendrait. Toujours trébucher un petit peu. J'aime bien faire trébucher les gens.
Est-ce que vous êtes, j'ai lu, alors je ne sais plus où, et je ne citerai donc pas mes sources, j'ai lu que les mots étaient pour les auteurs et les autrices les conjurateurs de nos sentiments. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que les mots permettent de façon un peu magique de conjurer le sentiment du lecteur, de faire apparaître les sentiments? C'est un peu ce que vous dites depuis le début, mais est-ce que ça vous semble pertinent dans ce sens un peu magique?
Je ne sais pas très bien, je ne comprends pas très bien ce que veut dire conjurateur de sentiments, mais chez moi, je crois que ça rejoint un peu ce que disait Estelle tout à l'heure, les paysages sont très souvent psychologiques, c'est-à-dire que ce qui se passe au niveau de la nature est en même temps révélateur des tourments et des conflits qu'ont les personnages. Ça a toujours une fonction symbolique. Et alors il y a aussi un thème qui revient dans deux des romans de mon cycle, Le rêve du démiurge, c'est le thème des paysages mentaux découverts par un télépathe. C'est-à-dire que chaque fois qu'il s'aventure dans l'esprit de quelqu'un, il découvre ce qu'est son paysage. Donc il y a une description de du paysage qui est toujours plus ou moins fantasmagorique et qui traduit la personnalité de l'individu dont il explore le cerveau. Et en particulier dans l'avant-dernier roman du cycle, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, Carnaval sans roi, voilà, merci, le dit télépathe, qui s'appelle Cantor, explore le cerveau d'un fou, qui est fou parce que 5 âmes différentes sont entrées dans son cerveau et se battent, alors ou ne se battent pas. Lui, l'hôte a enfoui sa propre âme tout au fond des mers. Et de temps en temps, alors selon celui qui prédomine, le paysage va prendre un aspect qui va traduire la personnalité de celui qui domine. Par exemple, il y a un petit vigile parmi les envahisseurs, et quand c'est lui qui définit le paysage, c'est un paysage avec des murailles, des fortins, des constructions métalliques, etc. Si c'est la petite fille, ça va ressembler plutôt à des dessins de livres pour enfants. Et tous ces paysages sont le reflet d'une psychologie. Donc c'est ça qui m'intéresse dedans. Alors, je ne saurais pas dire si j'introduis l'odorat, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas.
Conjuratrice, Estelle, ou pas ?
En tout cas, pour moi, une bonne histoire doit à la fois, évidemment, être des actions, des aventures qui sont intéressantes à suivre, mais aussi provoquer des émotions chez le lecteur presque à son insu, en fait. Enfin, c'est pas, je veux dire, pour manipuler le lecteur, c'est juste qu'on ressente des émotions sans avoir besoin de se dire, tiens, je suis en train de ressentir des émotions, ou tiens, là, ce passage-là me rend triste. Ça doit juste, voilà, s'invoquer de soi-même. Et quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, je peux faire une petite digression. Voilà.
C'est la fin du festival, digresser tant que vous voulez.
Ok. Parce que voilà, donc Jean-Claude parlait justement des images et en effet du choc des mots qui sont pas forcément faits pour aller ensemble et qui créent quelque chose de nouveau. Après, au-delà du mot en lui-même, dans tout ce qui peut aussi provoquer des émotions, des sensations, il y a la manière dont ils sont agencés entre eux, mais il y a aussi les sonorités, les rythmes, par exemple. Enfin, ça, c'est un truc vraiment. Pas un truc plutôt, mais c'est quelque chose qui ajoute beaucoup, je trouve, à une histoire de, par exemple, d'accélérer le rythme des phrases, de jouer sur des mots courts, sur des, voilà, sur vraiment des tout petits bouts de phrases, quand on veut vraiment accélérer une scène, ou au contraire de le ralentir, et puis tout à coup de l'accélérer à nouveau, ou de faire un rythme heurté quand il y a un personnage qui est, exemple de fantaisie numéro 2, en train de mourir douloureusement, se traînant vers la fontaine qu'il n'atteindra jamais. Voilà, c'est le rythme de lecture, c'est quelque chose qui agit presque à un niveau pas forcément conscient quand on n'est pas en train de faire du commentaire de texte. Et en même temps, c'est hyper efficace pour transmettre des choses. Les sonorités, pareil, c'est hyper efficace pour transmettre des choses. Et on voit ça en commentaire de texte souvent quand on est au lycée et tout. Et après, c'est pas quelque chose qu'on note quand on lit un livre forcément, mais c'est là, c'est présent. Et ça dit beaucoup et ça transmet surtout beaucoup. Et sur le pouvoir des mots aussi, moi, il y a un livre que j'adore qui parle de ça, qui parle du pouvoir des mots, bon, de manière assez glauque et noire, hein, désolée, mais que je vous encourage beaucoup à lire, qui est La Dame numéro 13 de Somoza. Ne voyez pas l'adaptation cinématographique, elle est ratée. Mais vraiment, c'est un très beau livre et qui parle du pouvoir d'invocation, de conjuration des mots, qui en parle très bien.
Bien. Moi, je veux en rajouter une couche sur ce que tu dis sur le caractère sonore. Très souvent, dans les descriptions, j'utilise des onomatopées. Par exemple, si je reviens sur mon exemple du vigile et de ces murs qui se construisent à toute vitesse, je vais rajouter un cataclang, cataclang, cataclang dans la description. Donc, il va y avoir interruption du discours descriptif par des bruits. Et j'utilise aussi la musique. Enfin, j'introduis des chansons, j'utilise des musiques que je décris, enfin c'est la musique est très présente dans mes, c'est pas pour rien si j'ai fini par devenir musicien d'ailleurs.
Oui, il y a un truc qu'on oublie aussi, bon, parce que on n'a que les mots, donc à un moment donné on va être obligé de tout faire avec, mais parmi les mots il y a des mots, je dirais, plus ou moins connus, plus ou moins recherchés, plus ou moins ce qu'on appelle les mots de poids faible, c'est-à-dire des mots qui n'apportent pas grand-chose, ceux qui au contraire sont très spécialisés, que peut-être tout le monde ne connaît pas, mais qui ont une vraie signification. Puis il y a des mots qui sont associés à d'autres choses. Je veux dire, un mot comme décrépit, ça veut vraiment dire un truc un peu abîmé, mais ça s'associe quelquefois à... Si vous parlez d'un immeuble décrépit, vous vous dites il n'a pas d'ascenseur et ça va sentir le pipi dans l'escalier. Donc vous introduisez tout un tas d'éléments sonores et d'éléments olfactifs et d'éléments sensoriels parce que vous avez déjà ces images-là. C'est-à-dire, le mot suffit à vous évoquer toute une catégorie qui va bien. Et trouver le bon mot, trouver celui qui va générer ça, c'est, quand on y arrive, c'est formidable parce que du coup, le lecteur fait tout le boulot à votre place. C'est vous qui bossez. Notre travail, c'est de vous faire bosser pour que vous construisiez vous-même l'environnement du livre dans lequel vous allez rentrer. Si on y réussit, ben vous êtes dans un environnement que vous êtes fait vous-même, à votre main, à partir de nos indications, mais à votre sensibilité à vous, et d'une certaine façon, vous y êtes bien, puisque c'est le vôtre. D'accord ? Mais ça veut dire qu'on travaille avec des mots, le mot juste, le mot sonore. C'est vrai qu'avoir quelqu'un qui marche et avoir des talons qui claquent sur les pavés, c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire en termes sonores. Vous avez, je ne sais pas, une voiture qui peut glisser sur l'asphalte ou se perdre dans le brouillard, dans le silence. Vous avez au contraire quelque chose qui peut rugir en faisant « Ah !» comme ça. Et à ce moment-là, ce n'est pas la même voiture, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même psychologie du conducteur. Donc tout ça, avec deux mots, trois mots, on génère tout un tas de, comment dirais-je, d'effets de remous et d'effets de ce que les Américains appellent le ripple effect, vous savez, les rides sur l'eau quand vous jetez un caillou. Et il faut arriver à jeter plein de cailloux en même temps, avoir plein de rides, et vous arrivez après au lecteur qui est la berge en quelque sorte, qui vous renvoie d'autres rides, et vous fonctionnez à partir du livre comme ça. Et ça, bah, c'est juste sentir le truc, je ne sais pas comment dire ça. Alors après, il y a la musique, effectivement, on est tous un peu musiciens ou au moins percussionnistes. Je suis en train de vous parler, il y a des bruits de tambour à l'arrière, je ne sais pas si vous les entendez. Eh bien, ils ont changé en cours de conversation, et inconsciemment, notre ami Francis, qui est musicien, a changé le rythme de ses phrases. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y avait des trucs qui faisaient toum, tout, toum. Alors il était comme ça, il prenait le temps d'expliquer, puis c'est devenu toum, tout, toum, tout, toum, tout, toum, ce qu'on entend maintenant, et c'est devenu beaucoup plus martelé et presque péremptoire dans sa manière de faire. C'était le tambour aussi, qui inconsciemment agit sur nous. Vous voyez ?
Maintenant, oui, mais je ne l'avais pas entendu avant. Alors, mon inconscient, oui, je sais, il me joue des tours.
Alors, Francis, comment on en arrive au moment où, vous l'avez dit, on n'a plus de mots, où on n'a plus envie d'utiliser les mots, où on a tout dit ? Est-ce que c'est ça vos raisons pour arrêter d'écrire ? Ou si c'est trop complexe, on part
ça sort un petit peu du sujet. J'ai décidé d'arrêter d'écrire parce que à la fin du cycle, j'avais décrit la mort de mon œuvre, ma propre mort. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux ajouter à ça ? J'ai rien à ajouter. Avec des mots, c'est terminé. J'écrirai plus rien. Je fais pas. Et c'est pour ça que je me considère comme un auteur posthume.
Tu te rends compte que si le Nouveau Testament s'était arrêté là, je dirais, il n'y aurait pas eu tout le bordel qu'on est en train de vivre à ce moment-là.
Bah oui.
Donc, à un moment donné, peut-être transcende, ressuscite. Il y a des précédents.
Attendons la résurrection de Francis Berthelot, écrivain posthume.
Ça risque de pas être triste.
Alors moi, je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Estelle tout à l'heure. Effectivement, plus un roman est immersif et plus les mots que vous employez nous donnent des éléments sur ce qui nous entoure, sur le paysage, sur tout ce qui fait l'entourage, le background que vous décriviez selon les dires de Mathieu Gabory. Est-ce que vous ne voyez pas venir des choses comme la 4D, comme des univers immersifs très très puissants. Moi je suis une tréquille, donc je pense à l'hologramme. C'est-à-dire que je me dis que peut-être, bon, sauf Jean-Luc Picard qui continue à lire, hein, on le sait, et d'autres parmi les tréquilles, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où si on réussit à nous donner à voir des choses qu'on n'aurait pas imaginées, mais en 4D, est-ce qu'à un moment le livre ne va pas perdre de sa force ? C'est une idée comme une autre. Hein, Oula, oui, bien sûr, Estelle.
Bah, c'est toujours des médias différents, en fait. Il y a toujours eu, de toute manière, des craintes. Donc, quand le cinéma est arrivé, on a dit « Ah, c'est atroce », donc c'est la fin d'une culture. Et puis ensuite, la télé est arrivée, c'est atroce, c'est la fin d'une culture. Le jeu vidéo est arrivé, mon Dieu, là, c'est l'horreur, c'est la fin d'une culture et ils vont tous devenir criminels. Donc, voilà. Non, justement, s'il y a paradoxalement un moyen de s'exprimer qui est mieux armé que tous les autres, en fait, pour ne jamais se démoder, c'est le livre. Parce que le livre, vraiment, vous met non seulement face à un personnage ou dans un univers, mais vous met dans le personnage. Et vous met dans le personnage, même pas au sens donc, de ce qu'on voit dans Ready Player One, qui est un film polémique, donc c'est cool les films polémiques. C'est-à-dire une combinaison de réalité augmentée, mais vous met dans même la manière de penser de quelqu'un d'autre. Un livre, par exemple, après, évidemment, on peut jouer sur les points de vue aussi au cinéma, aux jeux vidéo, mais en livre, on peut jouer de manière tellement plus poussée sur les points de vue qu'on va... Bah, vous allez vous mettre à compatir, à comprendre, à suivre quelqu'un qui, par moments, est complètement contraire à votre propre morale, à votre propre éthique, et vous allez partager sa morale et son éthique. Et à un moment, vous allez être avec lui, au moins pour un bout de chemin. Et là, par exemple, il y a un roman récent qui joue super bien sur les points de vue pour ça, c'est Des sorciers des hommes de Thomas Géa. Le roman est sous la bulle du livre, par contre, l'auteur n'y est plus cette fois, j'en suis sûre, je lui ai dit au revoir. Ou alors, il m'a menti. Mais...
Ce que ne font jamais les auteurs.
Et c'est en même temps à la fois un des grands défis, et je trouve, en tout cas, un des grands plaisirs d'auteur, de se mettre dans la peau de personnages qui ne sont pas nous, voire qui sont complètement contraires à nous, et qui prennent des décisions que nous, on ne prendrait pas. Bah, par exemple, pour mon premier roman publié en deuxième, Porcelaine, et l'héroïne qui s'appelle Limei, est née au XVIIIe siècle en Chine dans une famille de marchands, et elle a été élevée dans une culture vraiment de devoir, d'obéissance à son père. Elle n'est jamais sortie de son jardin et elle ne va pas prendre une grande épée pour aller sauver le monde, petit spoiler. Et elle va se retrouver plongée dans un environnement différent où elle va devoir réagir. Mais simplement, ce que j'ai voulu éviter avant tout et la grande crainte, c'est que je ne voulais pas qu'elle réagisse comme une jeune femme de banlieue parisienne du 21e siècle que j'étais. Plutôt indépendante et avec un fort caractère. Comment elle allait réagir avec son caractère, avec mine de rien les valeurs dans lesquelles elle avait été élevée et auxquelles elle adhérait, ce qui était aussi vraiment très important. Et j'ai par exemple travaillé avec des étudiantes chinoises pour qu'elles me disent vraiment ça, oui, dans sa culture, elle peut réagir comme ça. Ça, par contre, elle n'aura pas cette réaction-là. Et peu à peu, j'ai essayé de l'intégrer assez pour que les réactions du personnage qui me venaient au fil de l'écriture et que je dévidais au fil de l'histoire soient celles de cette jeune fille chinoise du XVIIIe siècle élevée dans cette culture et ne soient pas les miennes. Et comment aussi la rendre sympathique à la fois pour moi et pour le lecteur. Comment faire comprendre au lecteur ce dans quoi elle trouvait sa force, parce que pour moi c'est quand même un personnage fort, et c'est un personnage fort. Et ou aussi ben là dans Les Seigneurs de Boën, où il n'y a pas du tout ça par contre, mais il y a donc un personnage féminin qui a des défauts qui souvent ne sont pas considérés comme vraiment très positifs ou très glamour pour un personnage féminin, alors que quand c'est un personnage masculin tout le monde les trouve cool. Et comment faire pour que à la fois être la décrire avec ses défauts-là et qu'en même temps, le lecteur qui la lise adhère à son parcours, adhère à ses décisions, au moins les comprenne, voire les partage au moment où je les décris, ou plutôt au moment où je les amène. Au moment où Maëve, donc dans celui-là, prend sa décision finale, j'espère en tout cas que le lecteur, sur le moment, la partage et que sur le moment, il est heureux avec elle, même si ce n'est pas la décision que lui prendrait dans la vie.
Ouais, je voudrais faire une remarque. Je suis très surpris par le fait que, aussi bien l'un que l'autre, vous mentionnez le lecteur. Moi, je ne pense jamais au lecteur. Je pense à l'état idéal du livre que je suis en train d'écrire, si c'est un livre ou d'une musique, mais je ne pense pas du tout à ce que le lecteur qui n'existe pas va en penser. J'ai l'impression que tu le manipulais d'une certaine manière. C'est une idée qui ne me vient absolument pas. Je suis étonné que vous vous référiez tous les deux au lecteur. Pour moi, le lecteur, il n'existe pas.
Jean-Claude va répondre.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que d'une certaine façon, je crois qu'on se réfère. Quand je dis qu'on se réfère au lecteur, c'est que on sait que quelqu'un va prendre ce qu'on écrit et en faire son truc à lui ou à elle. C'est-à-dire que le texte n'est pas celui que nous écrivons, le texte qui sera lu sera celui qui sera fabriqué à partir du texte que nous écrivons. Et justement, tu parles des univers immersifs, tu dis on peut avoir la 4D, les images, les sons et tout ça. Ben, très bien, c'est une forme d'art complètement différente. Ça n'a rien à voir. Si je dis c'était un château sinistre perché au sommet de la falaise, copyright Victor Hugo, eh bien, ok, vous le voyez. Aucun d'entre vous ne voit le même. Si je vous fais un jeu vidéo avec le château dessiné et puis les odeurs et les sons, etc., ce sera quand même le même château pour tout le monde. Donc, entre guillemets, vous n'avez rien à faire. Mais à un moment donné, moi, je trouve ça un peu, on va dire, chiant. Je veux dire, j'ai adoré les films du Seigneur des Anneaux pour tout un tas de raisons, sauf que ce n'est pas mon Seigneur des Anneaux à moi. Mais ça ne fait rien. C'en est un qui est vachement bien. C'est la variation de quelqu'un d'autre. Bon, ce n'est pas comme ça que je les voyais, personnellement. Eh bien, mon boulot en tant qu'écrivain, c'est d'offrir aux gens qui vont me lire la capacité de construire quelque chose avec tout ce que je leur donne. Donc, est-ce que je leur en donne assez ? Est-ce que je leur donne des choses suffisamment précises ? Et est-ce que je leur donne l'envie avec tout ça de construire quelque chose ? Est-ce que j'ai fait une belle boîte IKEA à partir duquel vous allez construire votre truc ? Si oui, j'ai réussi mon coup et j'ai fait passer ce que l'histoire que j'ai reçue demande. Sinon, ben, il faut que je bosse. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, cette démarche-là, c'est la démarche de lecture, peut-être plus que le lecteur. Puis je sais que derrière ce que j'écris, il y a une démarche de lecture. Il y a des gens qui font le boulot. Et ces choses-là, c'est pour moi essayer de comprendre comment ça marche. Je ne sais pas ce que tu en penses, Estelle. Hein,
moi, en fait, deux choses. Déjà, j'ai commencé à raconter des histoires pour mon petit frère par oral tout de suite. Enfin, pour moi, les histoires, ça a toujours été pour les partager et pour qu'il y ait des gens qui se les réapproprient, qui les reprennent. Quand je racontais des histoires à mon petit frère et puis à mes amis, je leur demandais alors, voilà, quel personnage maintenant vous aimeriez qu'on suive quand les personnages étaient séparés, quand il y avait un héros qui leur plaisait, bah, je le développais plus. C'était déjà un peu de l'interactif, en fait. Et maintenant aussi, quelque chose que j'adore et que j'aimais déjà quand je faisais du théâtre, c'est quand un lecteur ou un spectateur au théâtre vient de me parler des personnages, mais de la manière dont il les voit, c'est devenu ses personnages à lui. Quand je veux dire, là, j'ai eu encore, ça m'a super ému, aux Imaginales, un superbe carnet qu'ont fait deux lectrices avec des dessins, avec des petites suites de l'histoire et tout, et des dessins de personnages. Et voilà, maintenant, ils leur appartiennent à eux, les personnages. L'histoire, elle appartient à ses lectrices, à ses lecteurs, et quand ils se la réapproprient, ça fait énormément plaisir. Donc, c'est pour ça, en fait, que je lance des histoires. C'est pour qu'après, elles aillent vivre leur vie dans le monde. C'est pas pour les garder pour moi, mais ça vient peut-être de la manière dont j'ai commencé. Et après, sur le fait que, finalement, l'imagination... Faire travailler son imagination, c'est beaucoup plus intéressant qu'avoir un monde tout près. Là-dessus, non seulement je rejoins Jean-Claude, mais pour le coup, j'aimerais parler un petit peu geek. Je peux ? Voilà. Donc, expérience de geek déjà un peu âgée. Donc, moi, j'ai joué aux premières générations de jeux de rôle vidéo, notamment les premières générations des Squaresoft. Je ne sais pas si Final Fantasy VI et autres, ça parle à quelqu'un dans la salle. Voilà. Et donc, le premier Final Fantasy VI, c'était des petits personnages en pixels qui n'étaient pas très détaillés. Mais justement, ça laissait une grande place à l'imagination pour faire ses persos, pour faire ses décors. Et ensuite, quand ma cousine, qui a 19 ans de moins que moi, donc vraiment quasiment une génération après, elle s'est mise à avoir la nouvelle version qu'ils ont faite avec des personnages très bien faits en 3D, très détaillés, finalement, quand j'ai regardé cette version, ça avait perdu beaucoup de son intérêt. Parce que les persos que je me faisais dans ma tête, à partir des quelques pixels, ils étaient beaucoup plus prenants, pour moi en tout cas, que les persos très éthérés. En plus, les persos qui ont été faits pour la nouvelle version, ils sont vraiment très fins, très éthérés, très élégants. Et moi, je voyais des héros beaucoup plus rudes, beaucoup plus réalistes que j'imaginais à partir de ces quelques pixels. Et là, je voyais des choses très poétiques et très fines, mais qui étaient pas, qui m'intéressaient moins, finalement. Donc, quand j'y mettais plus de mon imagination dans le jeu, ça me parlait plus. Après, il y a de très bons jeux actuels qui, pour le coup, ont des persos très détaillés. C'est pareil, hein, s'il y a des geeks dans la salle, je ne sais pas si vous avez joué à Hellblade, c'est génial. Et en plus, ça joue vraiment sur l'immersion du son et tout. Mais l'intelligence artificielle qui est remarquable. Mais là, c'est fait pour être dans une vision très réaliste, très détaillée. Alors que Final Fantasy VI, finalement, il était fait pour fonctionner avec ses quelques pixels. Donc ça fait aussi que je suis une grosse fan de rétro gaming, enfin, quand j'ai le temps de jouer.
Une remarque, on se rend compte que maintenant, grâce à des outils comme justement les intelligences artificielles, les réseaux de neurones dans les jeux, parce qu'il y en a vraiment de plus en plus, vous avez un jeu qui n'est jamais joué de la même façon par la même personne, parce que suivant la manière dont vous allez réagir, le jeu va s'adapter à vous, et ça donne quelquefois des gens qui sont passés dans des endroits qui ont été pratiquement créés pour eux. Et j'ai vécu ça, non pas dans un jeu, mais dans une expérience totalement transcendante. J'ai visité l'exposition sur David Bowie, qui était à Londres il y a 5 ans de ça, qui est une merveille, hein, si vous avez l'occasion de la voir. Elle circule dans un certain nombre d'endroits, je crois qu'elle est à Barcelone en ce moment. Et donc, on voit David Bowie à différentes étapes de sa vie, des costumes, des ceci, des cela, et de temps en temps, des tas d'alcôves dans lesquelles il y a des aspects particuliers. Bon, et vous vous promenez, on fait l'exposition avec un casque et un appareil qui, en fonction de l'endroit où vous êtes, vous raconte les choses. Mais pas seulement. Je me suis aperçu que derrière, il y avait un véritable travail d'analyse numérique. Je m'en suis aperçu de la façon suivante. Il y a une chanson de David Bowie qui a une importance extrême pour moi et pour mon épouse, c'était notre chanson, qui est Heroes, tout simplement. Bon. Donc, une alcôve consacrée à la partie berlinoise et Heroes, j'y vais. J'entends la voix de Bowie qui me dit cette chanson a été écrite de telle façon, enfin, me racontant un petit peu la genèse et m'expliquant, apprenant des choses. Moi, ravi d'entendre ça. Bon, je repars, je fais le reste de l'exposition. Puis à un moment donné, je me dis, cet endroit quand même, cette chanson Heroes, je retourne l'écouter. Et je reviens dans l'alcôve et David Bowie me redit, j'ai commencé à créer cette chanson. Et puis à ce moment-là, il me dit, mais je t'ai déjà raconté ça. Et alors là, croyez-moi, vous avez la voix de Bowie qui vous dit « I told you that once ». Et puis il dit « Tu le sais. Tu sais quand même que c'est les gens, comme pour les gens comme toi, que j'ai écrit cette chanson. Et je vais te dire pourquoi. Et là, il vous fait 2 minutes, vous avez l'impression que c'est rien que pour vous. J'en suis ressorti, mais j'étais ému aux larmes. Et j'ai raconté ça à Régine, et Régine n'a pas eu ça. Elle, elle est revenue, et elle a réu la même chose. Et moi, j'ai eu David Bowie qui m'a dit, je t'ai déjà raconté ça. Mais quand vous avez ce phénomène-là, vous avez l'impression d'avoir, à la limite, un livre pour, tout seul, pour vous tout seul. Eh bien, mon boulot d'écrivain, c'est de vous faire ça à chacun de vous. Et c'est pas facile, mais j'essaye. Et c'est vraiment l'idée de me dire, OK, qu'est-ce qui peut être le petit bout de truc qui va parler à une personne en particulier, une seule. Et cette personne-là, ben, je lui fais ce cadeau-là. Je lui fais plus exactement cette transmission-là, parce que moi, j'ai l'histoire, mon travail est de la transmettre. Donc, de vous en faire cadeau. Si j'arrive à le faire en mettant le bon paquet ruban autour, ben, c'est parfait. Voilà. Et donc, je ne suis pas du tout convaincu que la structure, la même pour tout le monde, avec des images, des sons, etc., dans lequel on vous dit, asseyez-vous dans le fauteuil, cessez de penser, on va tout vous donner, ça soit la bonne solution.
Mmh. Et il faudra quand même bien des scénaristes et des gens qui écrivent pour écrire les histoires potentielles de ces holodecks ou de ces situations de réalité virtuelle, même si c'est un autre travail que celui du roman, si on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a pour vous, dans vos inspirations, des tisseurs de mots, des gens dont le style est particulièrement une chose qui vous inspire ou qui vous donne envie de le lire et de le relire encore?
Francis Berthelot. Désolée.
Non.
Au niveau de l'écriture, non. Au niveau de la musique, oui. Mm-hmm. Au niveau de la musique, je suis très clairement conditionné par Prokofiev. Très clairement, c'est un compositeur que j'ai découvert quand j'avais 12 ans. Je suis tombé dedans et je ne suis jamais ressorti. Donc, j'écris les valses qu'il n'a pas écrites, par exemple.
Mais Estelle,
sur le point de vue littéraire, c'est... Oui, j'ai des grands modèles, mais ils n'agissent pas du tout sur mon écriture, je ne crois pas.
D'accord. Estelle, est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi les mots de Francis vous inspire particulièrement?
Ça dérange pas que je fasse fangirl 30 secondes
Bah, c'est-à-dire que je
comme
vais me...
Ah bon, bon, c'est bon, donc ça sera mieux, comme ça sera plus simple sans l'auteur à côté.
Bon, alors je...
Merci beaucoup Francis, en tout cas.
Merci.
Et bon retour.
Et bon retour. Mais...
Oui, ouais. Ou alors sinon Jean-Claude en profite pour nous dire qui l'inspire, pendant que Francis a encore les oreilles pas loin.
Moi, ce sont clairement les poètes, des poètes. Et je veux dire, j'en ai appris, il y a des poésies, des tas de poésies que j'ai appris par cœur, à la limite pour me tenir compagnie, parce qu'il y a des moments, vous savez, où on est coincé, on est seul, on est dans un embouteillage, où on est arrêté à un feu rouge. Ben, on a le temps de se réciter un poème. On a le temps de se réciter du Verlaine ou même du Villon ou des choses comme ça. Et cette langue-là, elle est tellement extraordinaire, elle m'évoque tellement de choses... C'est vraiment frères humains qui après nous vivaient, ne soyez pas contre nous endurcis. Je veux dire, et puis vous avez la description, vous avez le squelette qui pend au bout de la balade des pendus de Villon, et vous avez pis corbeaux nous ont les yeux cavés, ils nous ont crevé les yeux, ils nous les ont creusés. Hein, et le soleil desséché et meurtri. Vous avez cette squelette et qui vous dit mais ne soyez pas contre nous endurcis, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Et vous avez cette espèce de vision du monde qui vous tombe dessus. Vous avez ça avec François Villon. Vous pouvez faire un soir de demi-brume à Londres, alors que un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre, et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Je suivis ce mauvais garçon. C'est vraiment cette vision d'Apollinaire. Vous avez ça et vous vous promenez dans la ville. Et il m'est arrivé de me promener dans la ville tard le soir, il faisait sombre. Et j'avais le soir de demi-brume à Londres. Et j'avais le voyou. Enfin, je ne l'avais pas, mais je suivais quelqu'un, lui, Moïse et moi, Pharaon. Et je voyais les murs s'écarter devant lui. Et je marchais sans savoir où aller, mais sachant que lui allait quelque part. Voyez. Donc, toute cette poésie-là, c'est ce qui me parle. Ce sont mes matériaux. Après, bon, il y a des écrivains, c'est certain, mais les poètes ont pour moi quelque chose d'absolument, je sais pas, c'est dense, c'est court, et c'est tellement fort quand ça se déplie dans votre tête que...
Après, moi, ce que j'aime beaucoup, donc avec Francis Berthelot qui n'est plus là, voilà, c'est que quand j'ai découvert, c'est vraiment à la fois très incarné, C'est des personnages qui sonnent très vrais, notamment quand ils parlent de théâtre. Moi, c'était vraiment mon premier métier. Et souvent, quand je lis des livres sur le théâtre, j'ai l'impression de voir plus les fantasmes des gens qui imaginent ce qu'est le théâtre que des gens qui parlent vraiment de comédiens, de metteurs en scène, et ce que c'est la réalité de cet univers. Et quand Francis Berthelot en parle, c'est vraiment des gens que, même si ce n'est pas tout à fait dans les mêmes époques, que j'aurais pu croiser, que j'ai croisé pour certains. C'est à la fois, donc, il y a ce côté vraiment très sincère. Et en même temps, c'est à la fois, il y a ce côté réaliste, et en même temps, c'est complètement fantastique, c'est complètement un autre monde, même quand il parle de notre monde. Un autre AEU, voilà, enfin, je pense que vous avez compris. C'est hyper incarné. C'est à la fois quelque chose de très personnel et en même temps complètement universel. C'est une voix singulière, mais ça rejoint quelque chose que disait Jean-Claude tout à l'heure. Ça parle à chacun différemment. Et aussi, pour moi, un bon livre ou une bonne histoire, c'est quelque chose qui va même parler différemment au même lecteur quand on le relit à différents âges. Et il y a toujours des couches et des couches d'histoires nouvelles qui vont nous parler différemment. Et c'est aussi... voilà, je ne sais pas comment il arrive à faire ça, en fait, Francis, mais quelque part, je n'ai pas envie de le savoir, parce que juste, quand je le lis, je me dis, c'est possible de faire ça. Je ne le ferai jamais comme lui, parce que de toute manière, il l'a fait, donc ce n'est pas la peine de le refaire, et ce n'est pas le but. Mais par contre, c'est une sorte de phare derrière qui dit, hey, regardez, là, c'est possible. Donc là, il y a une île, il y en a peut-être d'autres, donc toi aussi, va trouver ton île, quoi. Et voilà, toi aussi va trouver quelque chose qui soit à la fois sincère, vraiment incarné, vraiment où tu mettes tes tripes et qui en même temps parle à plein de gens et fasse rêver, fasse partager des émotions et des mondes et des personnages et des aventures à plein de gens. Voilà, donc c'est plus une sorte de fanal aussi comme ça et de guide d'écriture et un peu une sorte d'idéal.
Bon, eh bien, je vous propose d'aller trouver des îles sous la bulle du livre, oui, puisqu'il y en a plein, et notamment celle de Jean-Claude et d'Estelle. Et merci pour votre attention et pour cette dernière conférence en ce qui me concerne.
Merci pour la modération.
Merci à vous.